VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mercredi 23 décembre 2015. Au micro, Morgane Guériec et Eric Manirakiza. À la une ce soir.
Proclamation d'une rébellion au Burundi, la force républicaine du Burundi a pour objectif de chasser du pouvoir le président Pierre Nkurunziza.
Le régime de Pierre Nkurunziza a vite basculé dans une dictature féroce. Le terrorisme d'État, la violation et la négation de l'accord d'Arusha.
République centrafricaine, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique se dit prêt à cesser les hostilités.
Amnesty International accuse la Russie d'avoir tué des centaines de civils en Syrie.
Bombarder de manière aérienne les bastions de l'État islamique en Syrie et en Irak, est-ce que c'est la seule solution? Ou bien il faut envisager de déployer des forces terrestres pour aller combattre sur le terrain militairement la direction de Daesh?
Le groupe État islamique a perdu du terrain en Syrie et en Irak, d'après le Pentagone.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Proclamation officielle d'une rébellion au Burundi. Un officier supérieur de l'armée burundaise, mais qui a déserté fin septembre dernier, l'a annoncé aujourd'hui. La force républicaine du Burundi, FOREBU, regroupant selon le lieutenant-colonel Edouard Nshimirimana, les principaux groupes armés opérant dans le pays et qui a pour objectif de chasser du pouvoir le président Pierre Nkurunziza et protéger la population de ses biens. Lionel Gahima.
L'objectif ultime de la force républicaine au Burundi, selon le colonel Edouard Nshimirimana, c'est protéger les populations et redonner toute sa vigueur à l'esprit de l'accord d'Arusha face à ce qu'il a qualifié de violence féroce de l'État.
Le régime de Pierre Nkurunziza a vite basculé dans une dictature féroce. Le terrorisme d'État, le monopole du pouvoir, la violation et la négation de l'accord d'Arusha, le génocide rampant, la terreur, le pillage et honte de la richesse nationale, les assassinats politiques.
La FOREBU accuse aussi le président Pierre Nkurunziza d'avoir orchestré la division au sein des corps de l'armée et de la police qui étaient jusque-là perçus comme des références d'intégration entre les Hutus et les Tutsis. Le colonel Nshimirimana a déserté fin septembre, quittant ses fonctions de directeur de transmission à l'état-major de l'armée burundaise et emportant avec lui deux ordinateurs de cryptage radio avec un lot de radios Motorola. VOA Afrique a essayé de joindre différentes autorités burundaises pour une réaction, mais sans succès.
Et de son côté, l'Union africaine ferait pression sur Pierre Nkurunziza pour qu'il accepte de négocier avec l'opposition. L'organisation serait en contact permanent avec les chefs d'État est-africains pour les amener à convaincre le président burundais. C'est en tout cas ce qu'affirme une source au sein de l'Union africaine citée par l'AFP. L'objectif est aussi de le faire accepter le déploiement d'une mission de paix africaine au Burundi. D'après les autorités ougandaises, le dialogue politique inter-burundais doit reprendre le 28 décembre à Kampala sous l'égide du président ougandais Yoweri Museveni. Le Rwanda a d'ores et déjà fait savoir qu'il n'enverra pas de troupes de maintien de la paix.
Et en République centrafricaine, le général Noureddine Adam, dirigeant du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, se dit prêt à adhérer à une cessation complète des hostilités sur l'ensemble du territoire. Dans un communiqué rendu public depuis N'Djamena, l'ex numéro 2 de la Seleka a affirmé que son mouvement s'engage à apporter sa contribution à la tenue des prochaines élections sans violence dans toutes les préfectures du pays. Nous y reviendrons dans la partie magazine dans cette émission.
Nouvelle offensive de Boko Haram sur le lac Tchad, dans le même temps, au Nigeria, 70 civils auraient été tués par erreur par l'armée camerounaise. Claire Morin-Gibourg.
Des combattants présumés du groupe Boko Haram ont lancé trois attaques distinctes ces dernières 24 heures dans la région du lac Tchad. L'attaque la plus meurtrière a fait 5 morts au Niger, aux abords de la ville d'Abadam. L'insécurité reste grande autour du lac Tchad, malgré la force mixte multinationale mise en place par le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad. Dans le cadre de cette lutte contre Boko Haram, les troupes camerounaises ont tué au moins 70 habitants du village de Kirawa Jimni, au Nigeria, dimanche dernier, selon des témoignages recueillis par le correspondant de VOA Afrique. Le porte-parole de l'armée camerounaise a, lui, démenti ces informations. Kirawa Jimni est situé près de la frontière camerounaise. Certains de ses habitants ayant fui à Maïdougouri ont affirmé que beaucoup de militants de Boko Haram étaient encore présents dans cette zone.
Le Tchadien Mahama Saleha Nadif, ancien ministre des Affaires étrangères, a été nommé chef de la mission de l'ONU au Mali. La MINUSMA, d'après les Nations Unies, remplacera à partir du 15 janvier l'ex-ministre tunisien des Affaires étrangères Mongi Hamdi, pressenti pour entrer au gouvernement tunisien. Mahama Saleha Nadif a notamment dirigé la mission de l'ONU de l'Union africaine en Somalie à Missom de 2012 à 2014.
Au Mali, affaire des bérets rouges, le chef de l'ex-junte malienne, le général Amadou Sanogo, sera jugé par la cour d'assises pour assassinat et complicité d'assassinat des militaires. C'est ce qu'indique l'AFP citant une source judiciaire. Les corps des soldats opposés au putsch de mars 2012 qui avait renversé le président Amadou Toumani Touré avaient été découverts, souvenez-vous, dans un charnier en 2013. Le général Sanogo est incarcéré depuis 2 ans.
Guinée, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a remis aujourd'hui, mercredi, au chef de l'État Alpha Condé, investi lundi pour un second mandat de 5 ans, la démission de son gouvernement, a annoncé la présidence dans un communiqué.
Présidentielle au Niger, la commission électorale annonce qu'elle va soumettre le fichier électoral au contrôle de l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est ce qu'avait réclamé l'opposition en vue du vote de février.
Vers de nouvelles élections législatives anticipées en Guinée-Bissau, les députés ont rejeté aujourd'hui le programme du gouvernement dirigé par Carlos Correira de Bissau. Une correspondance de Noua Mankali.
Dans un univers de 101 députés présentés dans la salle, 45 ont voté en faveur et 56 se sont abstenus selon l'annonce faite par le président de l'Assemblée nationale populaire, Cipriano Gassama.
Nous avons 45 voix en faveur de la motion de confiance sollicitée par son Excellence le Premier ministre et 56 abstentions. Pourtant, la motion de confiance de Monsieur le Premier ministre, selon le programme présenté, n'a pas été acceptée.
En réaction après l'échec du programme présenté, présenté par le Premier ministre, le leader du groupe parlementaire du PAGC, Khalifa Sédi, a déclaré que son parti est disponible de négocier avec ses partisans, mais aussi avec ceux du Parti de Rénovation Sociale, PRS, qui dispose de 41 députés à l'Assemblée nationale populaire. Entre-temps, le leader du groupe parlementaire des rénovateurs, Sertor Biot, a déclaré que son parti est disponible et reste aussi ouvert au dialogue. Selon la constitution de la République de la Guinée-Bissau, en cas de vote négatif du programme du gouvernement dans les prochains 15 jours, l'exécutif de Carlos Correa sera démis. Et dans ce cas, automatiquement, il appartient au président de la République de demander au parti de la majorité d'indiquer un autre nom pour former une nouvelle équipe gouvernementale. Noua Mankali, Bissau, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie accusée d'avoir tué des centaines de civils en Syrie, c'est ce que rapporte Amnesty International dans un rapport rendu public aujourd'hui. L'organisation fait également état de destruction massive dans des raids aériens qui bafouent le droit international humanitaire. On fait le point avec John Lyndon.
L'ONG basée à Londres explique que la Russie a eu recours à des bombes à sous-munitions interdites par les conventions internationales, des bombes incendiaires et des bombes non guidées contre des zones d'habitation à forte densité de population. Amnesty met en exergue l'attitude des autorités russes qui affirment ne frapper que des objectifs terroristes, mais se murent dans le silence ou le démenti quand elles sont accusées d'avoir tué des civils. L'organisation parle d'un bilan lourd, près de 2000 morts, des centaines de civils tués, de possibles crimes de guerre. Les autorités russes ont promis d'examiner le rapport, tandis que le ministère des Affaires étrangères assurait n'avoir aucun fait avéré concernant des pertes civiles au cours des frappes russes. Pourtant, mardi, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état entre fin septembre et le 21 décembre de 2132 personnes tuées dans des raids russes.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a reçu le leader du parti pro-kurde de Turquie, Selahattin Demirtas, évoquant avec lui un soutien de Moscou au groupe kurde combattant l'organisation État islamique. Cette visite a été vivement critiquée par Ankara, sur fond de profondes crises dans les relations entre les deux pays, depuis la destruction fin novembre d'un bombardier russe par l'aviation turque près de la frontière syrienne. Et concernant la Turquie toujours, une femme a été tuée et une autre blessée dans une explosion dans un aéroport d'Istanbul, alors que la Turquie est en état d'alerte élevé après plusieurs attentats sanglants, attaques attribuées aux djihadistes de l'organisation État islamique. Au Pakistan, l'explosion d'une bombe artisanale a fait au moins 3 morts aujourd'hui, mercredi, dans une région proche de la frontière afghane. C'est ce que rapporte l'AFP. Et puis en Ukraine, les autorités et les séparatistes pro-russes s'accusent mutuellement de violer la trêve du Nouvel An, à peine plus de 12 heures après son entrée en vigueur dans l'est du pays. Selon un communiqué, les rebelles ont tiré 7 fois sur les positions ukrainiennes, en énumérant aussi des tirs de systèmes de missiles anti-chars et d'armes à feu dans la région de Donetsk. Ce nouveau cessez-le-feu intervient 3 mois après le précédent, instauré en septembre, et qui a permis pour un temps de calmer considérablement les combats, qui ont déjà fait plus de 9000 morts depuis son déclenchement en avril 2014.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Mourangibourg.
En Côte d'Ivoire, le groupe marocain Banque Populaire se lance dans la microfinance. Selon nos confrères de Jeune Afrique, le groupe dirigé par Mohamed Ben Chaboun prévoit des implantations bientôt en Guinée, au Bénin, au Sénégal, au Niger, au Togo et au Gabon. En Guinée, le président Alpha Condé a lancé hier mardi les travaux de construction d'un barrage hydroélectrique d'une puissance de 515 MW. Situé à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, le barrage Swapiti coûtera 1,5 milliard de dollars. Les travaux réalisés par la société chinoise CWE devraient durer au moins 5 ans. Et puis électricité toujours. En Zambie cette fois, le courant a été rétabli après des pannes massives qui ont affecté une bonne partie du pays mardi, notamment la capitale Lusaka ainsi que des zones de production de cuivre. La Zambie, très dépendante de l'énergie hydroélectrique, rencontre des problèmes d'approvisionnement ces dernières années en raison de la faible pluviométrie et d'une baisse du niveau des eaux du barrage de Kariba.
C'est tout pour la Minute Éco. Merci Claire.
Allez, c'est sur ce jingle entraînant qu'on enchaîne sur les sports. Football, Manchester United, hein, l'entraîneur contesté de Manchester United, Louis van Gaal, a montré des signes de fébrilité, en quittant furieux une conférence de presse après des questions au sujet de son avenir à la tête de l'équipe. Savourez bien le vin et la tarte de Noël. Au revoir, a asséné l'entraîneur néerlandais en quittant la salle de presse au bout d'à peine 5 minutes d'entretien avec les journalistes présents. Interrogé sur les rumeurs concernant son avenir à la tête des Red Devils avant le déplacement de son club samedi à Stoke City, Van Gaal a mis un terme prématuré à la conférence de presse après seulement 3 questions. « Je vous souhaite un joyeux Noël et aussi peut-être une bonne année quand je vous reverrai », a-t-il également lâché visiblement irrité.
Morgan, en tout cas, merveilleux comme vœu du nouvel an. Et toujours en football, un consortium mené par 2 investisseurs américains négocie le rachat du club de football anglais d'Everton pour un montant estimé à 200 millions de livres, plus de 272 millions d'euros. Affirme le Times mercredi.
Allez, résultats et classement du championnat. Non, résultats seulement, on n'a pas trop le temps pour les classements, mais résultats du championnat nord-américain de basketball NBA. Miami Détroit 92-93, Toronto Dallas 103-99, Denver Lakers 107-111, Philadelphie Memphis 90-104.
Et on termine avec le dopage. Le bras droit de Koch quitte son poste et sous la pression. Et Morgan, il n'y a pas qu'à la FIFA que les têtes tombent. Nick Davis, bras droit du président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Nako, a annoncé mardi qu'il quittait temporairement son poste après avoir été mis en cause par la presse dans le scandale de dopage en Russie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Eric Manirakis en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Eric, la République centrafricaine.
Oui, Morgane, le général Noureddin Nadam, dirigeant du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, se dit prêt à adhérer à une cessation complète des hostilités sur l'ensemble du territoire. En N'Djamena, devant les envoyés de l'organisation de la communauté islamique, l'ex numéro 2 de la Séléka a déclaré qu'il regrettait tous ses actes, y compris celui de tentative de la partition du pays. Et Noureddin Nadam est arrivé au Tchad après son départ précipité d'au Bandoro. Ces déclarations ont été prises avec des pincettes par les autorités d'Obangui. Le point avec notre correspondant Thierry Anatole Membourou.
Je regrette mon acte de tentative de partition de la République centrafricaine. J'œuvrerai désormais pour la tenue d'élections apaisées et l'unification de mon pays. Tels sont les propos de Noureddin Nadam, patron du FPRC, frange de la Séléka qui avait mis à mal le déroulement du référendum dans la Nana Grébizi, le Bamingi Bongoro, la Wakaga et dans l'enclave musulmane du 3e arrondissement de Bangui. Propos pris avec des pincettes par les autorités de Bangui. Écoutant Dominique Saïd Paguindi, ministre de la Justice et porte-parole du gouvernement.
Il est revenu à des meilleurs sentiments pour déclarer soutenir le processus électoral en cours. C'est une bonne chose du point de vue du gouvernement. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que cette déclaration puisse être suivie d'effets encore sous son contrôle précaire, que ces éléments laissent circuler librement les candidats aux élections présidentielles et législatives, qu'il n'y ait pas d'entrave à cela et que les populations civiles de ces localités puissent aller librement aux urnes et exercer leurs droits civils et politiques, notamment le droit au vote. Et donc aujourd'hui, c'est cet appel-là que le gouvernement lance donc, en direction de ce citoyen et de son groupe, de son groupe politico-militaire.
Cette repentance tardive, selon les propos du ministre porte-parole, ne saurait absoudre Noureddin Nadam des faits qui lui sont reprochés et dont les procédures suivent d'ailleurs leur cours. Dominique Saïk Paguindi.
Le repentir tardif n'efface pas pour autant l'infraction qui demeure constituée. Les procédures sont ouvertes et suivent normalement leur cours. Les mandats délivrés continuent de produire leurs effets. Nous réitérons notre demande de voir exécuter ces différents mandats avec l'appui de la communauté internationale.
Bangui, Thierry Anatole Bomba Meburu pour la Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Deux thèmes au menu. Rwanda. Paul Kagame risque-t-il de compromettre son bilan s'il se maintient au pouvoir au-delà des limites du mandat présidentiel? Et République centrafricaine, les élections seront-elles déterminantes pour un retour à la paix? Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Cap maintenant sur la Guinée. Le procès des militaires cités dans l'attaque du domicile du président Alpha Condé a débuté aujourd'hui. L'ancien chef d'état-major général des armées guinéennes et 5 autres sont poursuivis pour désertion. De Conakry, la correspondance de Zakaria Camara.
Le 19 juillet 2011, une attaque contre le domicile d'Alpha Condé, nouvellement élu président, est déjouée à Conakry. L'annonce est faite par la haute hiérarchie militaire qui, quelques jours plus tard, procède à des arrestations. L'ancien chef d'état-major des armées ou encore l'ancien préfet de Dubreka sont cités dans cette affaire qui est jugée ce mardi par un tribunal militaire. Cheikh Sako, ministre guinéen de la Justice.
L'État guinéen Guinée a été condamné par le tribunal de Kaloum pour détention préventive excessive. Cette condamnation, en tant que garde des Sceaux, je l'ai assumée. Il faut aussi assumer ses fautes. Mais assumer ses fautes, c'est aussi dire pourquoi ça n'a pas été fait. Une juridiction de droit commun ne pouvait pas juger aujourd'hui cette affaire. Et comme le tribunal militaire n'existait pas dans notre pays, il fallait tout mettre en œuvre, former les magistrats. Tout ça ne se fait pas en un jour.
Procès très attendu en Guinée à cause de l'identité des prévenus, 6 militaires au total. Et à l'ouverture des audiences, le président s'est voulu rassurant. Sékou Keïta promet une justice pour tous.
Le tribunal militaire permanent de Conakry tient la promesse suivante. Nul ne sera jugé par son appartenance à telle ou telle religion, à telle ou telle ethnie, à telle ou telle obédience politique, à telle ou telle région naturelle. Nul dont l'innocence est prouvée ne sera condamné. Enfin, nul dont la culpabilité est reconnue ne sera libéré.
Maître Salif Béavougui est l'un des avocats de la défense. Il se dit surpris et déçu de n'avoir pas pu faire sortir son client de prison.
Notre client, le colonel Bondabon, est malade. Il a été régulièrement mis en liberté sous contrôle judiciaire. Il n'a jamais quitté Conakry. Il a été régulièrement confié à ses avocats. Aucun acte de procédure ne lui a été signifié et qu'il refusa de comparaître. Il est malade, il est diabétique, il a la tension. Nous avions des clients au passé qui sont morts tristement à la maison centrale dans cette affaire. Ils n'ont pas eu la chance de prouver leur innocence.
Dans les rues de la capitale, le procès des militaires est l'un des sujets très commentés par les citoyens.
On espère que ce procès va renforcer la lutte contre l'impunité en Guinée.
C'était un signal fort aux militaires. Ben, il doit savoir, rien ne restera impuni. S'ils étaient reconnus coupables, je demande la peine qu'ils méritent pour que plus jamais ça en Guinée.
Je pense qu'il est temps qu'on sache qui a fait quoi dans cette affaire. Le procès n'a que trop duré.
En 2013, la cour d'assises de Conakry avait jugé une trentaine de personnes. Deux militaires parmi elles avaient été condamnés à une peine de prison à perpétuité. Le général de division Nou Cham et ses co-accusés sont poursuivis pour désertion. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Le bras de fer se poursuit à Djibouti entre le gouvernement et l'opposition. Daher Ahmed Farah, porte-parole de l'Union pour le salut national de coalition de l'opposition djiboutienne USN, a recouvré la liberté aujourd'hui après quelques jours de détention qu'il qualifie d'arbitraire. Timothée Donangmaï l'a joint dans la capitale djiboutienne.
On m'a fait croire en m'arrêtant en pleine route en contrôle routier. Puis j'ai été conduit au commissariat de police, au commissariat central. Là, j'ai été sommé de descendre du véhicule. Mon chauffeur et les véhicules ont été conduits dans un autre commissariat. Et depuis ce 14 décembre, mon véhicule reste confisqué dans ce commissariat. Le vendredi 18 décembre, j'ai été assigné à résidence ici à Djibouti, dans la capitale. La VOA en a d'ailleurs rendu compte. J'ai reçu une convocation pour le lendemain 19 décembre. Et depuis, j'étais tous les jours convoqué au commissariat de police pour m'entendre poser des questions dont je ne comprends pas les bien fondés. L'on me demande, en dehors de tout cadre légal, qui paye mes factures d'électricité et d'eau, d'internet, le loyer du logement que j'occupe, combien de personnes vivent sous mon toit et quels sont leurs noms, des choses qui relèvent tout à fait de la vie privée et que rien ne permet à la police de me demander. Et lorsque je rétorque « au nom de quoi vous me demandez cela ?»« Sur quelle base légale vous me demandez cela ?» l'on nous répond « nous le permettons ».
Vous êtes libre aujourd'hui. Quelle est la suite de cette affaire ?
J'ai été resté aujourd'hui. J'ai été détenu dans des conditions particulièrement éprouvantes, surtout aujourd'hui. J'ai été relâché aujourd'hui vers midi, mais je ne suis pas pour autant sorti de cette affaire, puisque je suis convoqué de nouveau demain matin à 8h30. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi.
Faut-il voir dans vos déboires les conséquences de cette dégradation des rapports entre le pouvoir et l'opposition ?
Oui, clairement, il y a une volonté du régime de réduire la coalition des partis djiboutiens d'opposition, l'USN, dont je suis le porte-parole au silence. Cette volonté s'est clairement manifestée au lendemain du 20 novembre 2015, jour où nous avons tenu un grand meeting, un meeting qui a rassemblé des milliers et des milliers de Djiboutiens et qui a rappelé que l'USN reste majoritaire dans ce pays. Comme le président était sur le point de déclarer sa candidature à un quatrième mandat, ces meetings l'a fait paniquer. Il a décidé donc d'user de la force pour réduire l'USN au silence. Depuis cette date, nous sommes interdits de circulation. Nous ne pouvons même pas sortir de la capitale vers la province. Nous sommes interdits des meetings. Nous ne pouvons pas tenir de réunions publiques, même pas de réunions privées à l'intérieur de nos locaux. Nos militants et nos cadres sont régulièrement enlevés à l'intérieur de nos locaux et séquestrés par la police.
D'ailleurs, Ahmed Farah, porte-parole de l'Union pour le salut national USN, coalition de l'opposition djiboutienne.
Le groupe État islamique a perdu du terrain en Syrie et en Irak, c'est selon un rapport du Pentagone. Mais malgré cette régression due en partie aux frappes aériennes de la coalition internationale conduite par les États-Unis, le groupe djihadiste a aussi conquis de nouveaux terrains. Pour Mustapha Tossa, analyste politique basé en France, l'expansion du groupe État islamique reste une menace majeure et devrait être prise plus au sérieux par la communauté internationale. Il est ici au micro d'Arzouma Compaoré.
Jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à faire le bilan des attaques aériennes américaines, françaises et européennes sur ces bastions et voir si réellement ces attaques ont touché les structures de commandement et de décision de l'État islamique. Donc, cette affirmation est à prendre au conditionnel. Leur ambition, elle est globale, c'est d'essayer de fédérer, de coaliser l'ensemble des groupes qui se réclament du djihadisme mondial et de les mettre sous la même bannière, celle de l'État islamique.
Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant au niveau des différentes coalitions qui existent, la Russie, les États-Unis et tout?
On s'attend à ce que la communauté internationale soit réellement sérieuse dans la lutte contre ce phénomène-là. Alors maintenant, toute la question est de savoir est-ce que le fait de se contenter uniquement de bombarder de manière aérienne les bastions de l'État islamique en Syrie et en Irak, est-ce que c'est la seule solution? Ou bien il faut envisager d'autres pistes, y compris celle de déployer des forces terrestres pour aller combattre sur le terrain militairement la direction de Daesh. Alors on parle aussi de monter une coalition locale, sous-traiter cette guerre à des forces arabes, kurdes et pourquoi pas turques demain. Donc toutes les hypothèses sont là, sauf qu'il y a une seule certitude, c'est que l'action du bombardement aérien n'a pas suffi à éradiquer Daesh, bien au contraire. L'État islamique en a profité pour s'épanouir et pour augmenter son territoire.
Qu'est-ce qui explique la difficulté de pouvoir lutter efficacement contre l'État islamique aujourd'hui?
C'est un manque de volonté internationale réelle. Alors là, les États-Unis ont été échaudés par des expériences comme celle de l'Afghanistan et de l'Irak. Les Européens sont échaudés par l'expérience libyenne. Donc il y a un manque évident de volonté militaire et politique internationale pour lutter contre Daesh. Et l'État islamique profite de cette hésitation, de cette timidité, de cette peur de déployer des forces terrestres sur des territoires comme l'Irak et la Syrie. Donc il en profite pour s'épanouir. Mais le jour où il y a une vraie volonté de combattre Daesh, je ne crois pas que Daesh soit plus dangereux que ne l'était le régime des talibans en Afghanistan ou que ne l'était Al-Qaïda. Sauf que Al-Qaïda et le taliban en ont su, et avec une fermeté et une détermination, les combattre. Et Daesh, il y a une grande hésitation internationale qui est à l'œuvre et qui empêche toute action réellement efficace pour lutter contre Daesh.
Voilà, c'était Mustapha Toussa, analyste politique basé en France.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Lunanira Gahima, à la console Nelson Lopez. Présentation, Eric Manilakiza et Morgane Guiriac.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets et posez des questions. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.